Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias version été. La mondialisation a dévasté nos classes populaires, l'internet va dévorer nos classes moyennes. C'est la thèse défendue par Pierre Bélanger, fondateur et PDG de la radio Skyrock, dans son livre La souveraineté numérique, un ouvrage qui dénonce en particulier l'accaparement de nos données personnelles par une poignée de géants américains du net. Pierre Bélanger était notre invité en mai dernier pour partager son analyse et détailler les solutions qu'il propose. Rediffusion aujourd'hui de cet entretien dans sa version longue.
RFI.
Si vous nous suivez régulièrement, vous avez probablement perçu une certaine note de pessimisme chez nos invités depuis quelques mois. Une inquiétude qui se traduit également dans l'actualité, avec tout récemment la possibilité pour les Européens de faire valoir leur droit à l'oubli sur le moteur de recherche Google. Le désenchantement numérique fait entendre sa voix de plus en plus fort, et ce qui est le plus troublant, c'est que ses porte-paroles sont pour la plupart de grands enthousiastes de l'internet. Bonjour Pierre Bélanger.
Bonjour. Merci de votre invitation.
Merci à vous d'être là. Vous êtes fondateur et président directeur général de la radio Skyrock, du groupe même Skyrock. Vous êtes également l'auteur de plusieurs essais sur l'internet et les médias. Votre dernier livre a pour titre « La souveraineté numérique ». C'est un ouvrage électrochoc qui vise à faire prendre conscience des dangers que représente l'évolution de l'internet pour nos sociétés et peut-être plus particulièrement nos économies. C'est ça ?
Les dangers, oui, bien sûr, mais c'est surtout un livre positif, puisque la dernière phrase du livre, je la dévoile ici, c'est « Le réseau est notre chance ». Donc, je pense qu'on est passé par une grande phase bisounours, une phase, je dirais, où on se droguait à la modernité et dans une sorte de rêve technophile.
Quand vous dites « on », c'est vous également ?
Ah ben moi je suis toujours, hein, moi j'adore tous les nouveaux modèles, je regarde les keynotes d'Apple, je suis un fan absolu des technologies. Maintenant, je considère que l'extraordinaire apport du réseau, c'est la liberté qu'il nous donne, l'émancipation, la productivité, la capacité de rejoindre les autres, de connaître leurs idées, il y avait un prix qui était caché. C'était le prix de notre liberté au final. Et je pense que c'est notre devoir à tous, de citoyens, de faire que cette extraordinaire liberté du net ne se paye pas au prix de notre liberté.
Est-ce que vous avez connu un désenchantement du numérique ? Et si oui, qu'est-ce que c'est le déclic pour vous ?
Il n'y a pas de désenchantement. J'ai toujours été, parce que praticien, parce que utilisateur du réseau, parce
précurseur même dans votre stratégie. Les Skyblogs.
Absolument, parce qu'entrepreneur, j'ai toujours été confronté à la réalité du réseau. Et j'ai même, en 2011, écrit un texte sur la souveraineté numérique qui expliquait que, en fait, l'illusion qu'on avait de l'Internet comme étant un nouveau monde libéré des contraintes, libéré du mal. Et en fait, c'est intéressant de voir quand il y a eu la découverte du continent sud-américain, même nord-américain, à chaque fois, les pionniers qui arrivaient dans ces terres nouvelles avaient dans l'idée qu'ils allaient construire un monde nouveau, délivré du mal. Et il y a eu cet Internet délivré du mal. Il y a eu cet Internet où il y avait une constitution qui était écrite pour l'Internet. Il y avait cette idée de dire, voilà, tout le monde est gentil sur Internet. Et en fait, non. Et on s'en rend compte très vite.
Alors, votre livre pourrait se diviser en deux grandes parties. D'abord, une approche analytique qui expose les réalités du réseau. Ensuite, une approche, on pourrait dire, curative qui propose un plan d'attaque à la France et, dans une moindre mesure, à l'Europe. On va revenir longuement sur ces deux aspects. Ce qui est certain, c'est que votre texte fait froid dans le dos. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas parfois à prendre un ton prophétique. Je vais vous citer. Confrontée à la révolution de l'Internet, la France a renoncé à maîtriser son destin sur les réseaux informatiques. Notre pays a livré sa souveraineté numérique sans débat et sans combat. C'est une catastrophe. L'Internet ne vient pas s'ajouter au monde que nous connaissons. Il le remplace. L'Internet siphonne nos emplois, nos données, nos vies privées, notre propriété intellectuelle, notre prospérité, notre fiscalité, notre République et notre liberté. Nous allons subir un bouleversement qui mettra un terme à notre modèle social et économique.
Voilà, exactement.
Ça fait peur.
Oui, ça fait peur, ça fait encore plus peur si on ne le sait pas. C'est-à-dire, si on vit dans l'illusion d'un Internet qui vient s'ajouter au monde qu'on connaît, on dit, bon, ben voilà, il y a le monde, et puis il y a Internet, bon, qui s'accommode du monde tel qu'il est. En fait, l'Internet est à ce point, par la logique des réseaux, un outil de productivité, et il a une telle logique d'effet réseau, qu'en fait, il remplace. Donc, on est dans une logique de remplacement. En second lieu, je me suis toujours battu pour la liberté, par le parcours des radios libres, par tout ce que j'ai fait. Et en fait, quelle est dans nos démocraties l'assise de la liberté ? C'est le droit. Et quelle est l'assise du droit ? C'est la souveraineté, c'est-à-dire maîtriser son destin sur un territoire. Demain, la souveraineté numérique, c'est maîtriser notre destin sur les réseaux. Et si on ne le fait pas, eh bien ce à quoi on assiste, en fait, c'est un gigantesque transfert de valeur. Aujourd'hui, le continent européen est le premier exportateur de données qualifiées. Donc on exporte nos données.
Les données qualifiées, c'est quoi ?
C'est les données personnelles, c'est toutes les informations qui permettent de réduire l'incertitude sur les individus. Bon, on exporte ces données et on les réimporte sous forme de services.
Et au quotidien, l'individu les exporte parce qu'il a un téléphone connecté qui va le géolocaliser en permanence, parce qu'il s'inscrit ou qu'il communique sur des réseaux sociaux, parce qu'il envoie des mails, etc. etc.
Voilà, donc nous avons une trace numérique que nous laissons en permanence, et cette trace numérique, elle est très utile. Si on me prévient une heure à l'avance que je vais avoir probablement un incident cardiaque, bon, c'est fantastique, ça va sauver des vies. Bon, si maintenant, en même temps, il y a une compagnie d'assurance qui est informée de ce là et qui, de ce fait, augmente mes primes, que mon employeur est simultanément informé d'une manière ou d'une autre et me prive d'une évolution de carrière parce qu'il considère qu'il y a un risque cardiaque, etc. C'est pas la même chose. Donc l'idée, c'est exactement comme au début de la révolution industrielle. Quand il y a eu la révolution industrielle, on se dit, bah, c'est extraordinaire, ça va accroître le niveau de vie, ça va accroître la richesse de tous, mais il y a deux problèmes. C'est que les enfants bossent dans les mines et que l'environnement va être entièrement détruit. Bon, on s'est aperçu que ce prix à payer qu'on nous imposait à ce moment-là, eh bien, il n'était pas nécessaire. On pouvait avoir une société industrielle tout en préservant l'environnement et en même temps en ayant des conditions sociales qui permettaient à chacun de s'émanciper et de prospérer. Donc voilà. Donc il y a une vraie logique de dire récupérons notre souveraineté, récupérons notre contrôle parce que le modèle social français, le modèle social européen, il tient sur quoi d'abord ? Bien sûr une volonté collective, bien sûr une démocratie, mais sur des ressources matérielles. Ça coûte cher, un système qui fonctionne comme ça. Bon, eh bien, ces recettes-là, si on ne les a plus, ben, le système tombe.
Pour celles et ceux qui douteraient de votre clairvoyance, vous citez dans votre livre ce texte de 2011 sur la souveraineté numérique que vous avez évoqué. Je vais vous lire à nouveau. Les Français et les Européens transfèrent massivement leurs données personnelles sur le continent nord-américain. Les carnets d'adresses, les listes d'amis, les messages intimes, les photos, les secrets, etc. sont stockés sur des serveurs à 10 000 km de nous et répondant de la compétence du tribunal de Sacramento. Qui peut croire une seconde à la confidentialité des données collectées et stockées sur ces services, il est fort à parier, donc ça c'est un pari que vous faisiez en 2011, que nous apprendrons qu'ils étaient en accès ouvert aux autorités policières et aux services de renseignement publics et privés de leur nation d'hébergement et bien entendu des États-Unis. Donc en 2011, vous anticipiez déjà ce qu'on a connu comme un choc immense ici, c'est-à-dire l'affaire Snowden et les révélations sur la surveillance de la NSA avec voilà, donc, l'aide et l'appui des grandes sociétés d'Internet.
Oui, donc Snowden était donc abonné au débat La Revue de Marcel Gaucher et donc, effectivement.
Où vous avez publié ce texte.
Voilà, où j'ai publié ce texte. Donc oui, en effet, vous avez aux États-Unis, et j'adore les États-Unis, encore une fois, quand vous lisez le livre, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas de désignation d'un adversaire au sens de dire voilà celui qui fait du mal, etc. Il y a cette idée de dire le seul ennemi, c'est nous. Mais il n'y en a pas d'autres. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et vous vous rendez compte que le numérique est à ce point capital, les réseaux sont à ce point au cœur de la stratégie et au cœur de la puissance, que s'est fondé aux États-Unis un complexe qu'on peut appeler un complexe militaro-numérique, comme on parlait d'un complexe militaro-industriel jadis. Et ce complexe militaro-numérique, en fait, il fusionne les intérêts économiques privés des sociétés de l'Internet et les intérêts du renseignement et les intérêts militaires. Bon. Vous avez actuellement deux travaux simultanés qui sont faits sur la reconnaissance des visages. La reconnaissance faciale, c'est-à-dire je vois un visage, je peux identifier la personne.
Ou une caméra de surveillance voit un visage.
Mais toutes les photos. Bon, vous devez être persuadé que toutes les bases de données de photos qui sont collectées par les réseaux sociaux aux États-Unis sont à pleine disposition des autorités militaires et des autorités de renseignement et que les deux bases sont fusionnées. C'est de fait. Je veux dire, c'est pas de la prophétie, c'est de la pure logique.
Le débat sur les données personnelles, sur la vie privée, est loin d'être récent. Il est presque consubstantiel à l'Internet. En revanche, ce qui est plus récent, c'est la compréhension de ce que cela peut signifier d'un point de vue social et économique. Et notamment, vous rappelez ce chiffre, Internet détruit 4 emplois pour un créé.
Voilà, donc on a aujourd'hui une révolution industrielle qui n'est pas comme les autres. Dans les révolutions industrielles traditionnelles, on a des transformations de l'emploi. C'est-à-dire, pour simplifier, le paysan devient ouvrier et l'ouvrier deviendra employé. Donc on passe du secteur primaire au secondaire, au tertiaire. Bon, il n'y a pas de secteur quaternaire, déjà, c'est la nouvelle. Par conséquent, là, on n'est pas dans une logique de transformation, on est encore une fois dans une logique de substitution. Il y a une étude du MIT et de l'Université de Louvain que je cite dans le livre. Il y a une nouvelle étude qui est parue depuis par l'Université d'Oxford qui dit que dans les 20 prochaines années, 47% des emplois du tertiaire seront substitués.
Le tertiaire, ce sont les services.
Oui, c'est l'ensemble, je dirais, des métiers qui sont liés au traitement de l'information. C'est-à-dire les nôtres, je dirais, ça va du comptable à l'agent d'assurance, au banquier, à l'agent de voyage.
Et c'est l'essentiel des économies développées en général.
Bon, c'est tout le secteur tertiaire. Bon, tout ce secteur-là, c'est un emploi sur deux qui disparaît dans les 20 prochaines années et pas la 19e. Donc, ce qui veut dire qu'on est déjà aujourd'hui dans des logiques de remplacement. Et effectivement, il y a cette idée de dire, bah oui, mais il y a des nouveaux emplois qui sont créés, c'est-à-dire tout le monde va devenir concepteur d'applications mobiles. Bon, dans les faits, il y a cette substitution, ce remplacement, il a lieu, mais il y a, comme je l'écris, il y a 4 destructions pour une création, et sur la création, 1 sur 10 de ces emplois est qualifié, et 2 sur 3, il est qualifié, mais créé ailleurs. Donc vous avez vraiment...
Donc ça veut dire en gros que les emplois les plus qualifiés sont très très peu remplacés, quoi.
Oui,
en gros.
Et donc vous avez en fait tout un tissu économique qui s'effondre. Or, nous sommes sur des sociétés qui vieillissent, ici en Europe, que donc nous avons besoin d'une base de travail importante. Or, cette base de travail, elle est complètement attaquée. Or, on peut dire que ce que la mondialisation a fait aux classes populaires en Europe, l'Internet va le faire aux classes moyennes. C'est-à-dire un choc dont on ne se remettra pas si justement on n'a pas cette maîtrise des réseaux qui fait que oui, ce choc aura lieu, mais au moins, on aura dessus un certain nombre d'effets de levier qui nous permettront d'agir et de continuer à avoir une économie qui tient la route.
Alors, on va revenir sur toutes ces évolutions, on va aussi revenir sur les solutions. Juste cette phrase que vous mettez en introduction, pour faire face à ces dangers, vous préconisez, enfin, c'est pas une phrase, c'est une expression, vous préconisez la mise en place d'une ligne Imagino pour faire valoir notre souveraineté. Qu'est-ce que c'est, cette ligne Imagino?
Bon, vous voyez déjà...
Oui, donc c'est une référence à la ligne Imagino.
Oui, le jeu de mots à deux balles déjà, mais...
qui n'était pas un succès, la ligne Imagino.
Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. La première, c'est se fermer. C'est de dire, voilà, on va freiner cette révolution, on va freiner ce mouvement, et n'attendons pas des individus, ni de nous-mêmes, qu'on se prive de ces merveilleux services, de ces merveilleuses opportunités qui nous font économiser de l'argent, qui nous facilitent la vie, etc. Donc toute idée qui est de dire que c'est au détriment de la liberté des utilisateurs qu'on va essayer de changer les choses, c'est une erreur. Certains pays ont fait ce choix, ça doit certainement pas être le nôtre. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de dire... Très bien, on a compris, on va faire la même chose. Mais, c'est-à-dire, on va recréer ce que j'appelais des réseaux logiciels, c'est-à-dire des réseaux de services qui sont impliqués dans les infrastructures, dans les terminaux, dans les systèmes d'exploitation. On va recréer des acteurs comme des acteurs américains. Bon, là, on va directement...
C'est un petit peu ce qu'ont fait les Chinois, d'une certaine manière.
Ce qu'ont fait les Chinois ont d'abord enclos leur réseau.
Donc ils ont fait ce qu'il fallait pas faire, déjà.
Et ça, c'est une erreur. Et en second lieu, ils ont, au sein de cet enclos, généré sur un marché considérable des géants protégés. Ces géants protégés qui, aujourd'hui, sortent de cet enclos pour partir à la conquête du monde. Oui, c'est un choix, mais ce choix ne peut en aucun cas être le nôtre, puisque nous n'avons pas, dans la nature même de nos démocraties et des libertés individuelles, comme principe de restreindre les libertés pour pouvoir faire un progrès économique. Ce n'est pas possible. Donc, nous, on doit partir de cette idée. Nous sommes dans un système ouvert de fait. Et la seule chose à ne pas faire, c'est de dire, voilà, je recopie les réussites américaines. Donc, notre rôle, c'est d'inventer quelque chose de nouveau, ce qui est possible, et d'appuyer cette innovation sur nos libertés. C'est différent. C'est en fait l'inverse.
Vous rappelez que les réseaux fonctionnent selon trois dynamiques. Vous souhaitez les expliquer, vous souhaitez que je vous les rappelle. Donc d'abord, mais c'est très important parce que ça donne une idée de l'évolution possible aussi du monde. Il y a d'abord ce qu'on appelle la loi de Metcalfe qui est...
Oui,
que...
alors la loi de Metcalfe, c'est donc Robert Metcalfe qui est toujours vivant, qui est un grand acteur de l'Internet et des réseaux, qui a dit que la valeur d'un réseau est équivalente au carré du nombre de machines qui y sont connectées, et cette règle s'applique aussi à la machine elle-même. Donc je vous donne un exemple tout simple, parce que généralement quand on dit ça la première fois, les gens ont l'impression qu'on leur lance une brique dessus. Donc le principe est simple, vous avez 10 machines, elles sont connectées en réseau. La valeur d'une machine va être 10 au carré. Alors 10 au carré, c'est 10 fois 10, ça fait 100. Bon, vous rajoutez une machine, ça fait 11 machines. La valeur de chaque machine va être 11 au carré, ça fait 121. Donc vous avez multiplié en fait la valeur, vous avez accru en fait de 21% la valeur de chaque machine en accroissant la taille du réseau de simplement 10% en rajoutant une machine. Donc vous avez un effet en fait qui est ce qu'on appelle l'effet réseau, c'est-à-dire quand vous rajoutez une petite chose, vous avez un grand effet, vous avez une démultiplication. Bon, donc ça c'est très très important, cette loi de Metcalfe.
Parce que là vous parlez de machines, mais en fait les machines ce sont les téléphones, ce sont
alors,
les objets
voilà,
connectés.
Au réseau des réseaux, qui est Internet. Donc déjà vous avez un effet réseau. Quand vous agrégez des réseaux, vous faites le réseau des réseaux, vous avez déjà une nouvelle multiplication de ces effets. Ce réseau des réseaux, c'est Internet. Bon, et de surcroît en fait, cette loi des réseaux, elle s'applique aux machines. Et il y a des centaines de milliers de machines qui rejoignent le réseau chaque jour, mais elle s'applique aussi aux données, elle s'applique aussi aux services. Donc si vous avez un réseau de services, il y a un réseau logiciel qui a plus de 120 services. Ça fait 120 au carré, et qui donc va avoir une puissance, je dirais, vis-à-vis de vous, qui fait que vous ne pouvez pas vous en sortir.
Et là, on pense à Google, par exemple, qui a des réseaux de services.
On peut penser à d'autres.
Donc, mais c'est cette organisation. Qui propose le mail, la cartographie, la voiture, les lunettes,
etc. Voilà, cet ensemble de dispositifs-là, il est lié à la loi de Metcalfe. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un effet réseau, c'est-à-dire l'adjonction d'un multiplie la valeur de tous. Bon, c'est valable aussi pour les données. C'est-à-dire, une donnée qu'on a sur vous, une donnée ne vaut aussi parce qu'elle est contextualisée. Donc plus vous avez de données sur quelqu'un, plus chaque donnée a de la valeur. Donc cet effet réseau crée les puissances de demain. Donc déjà, vous avez cet effet réseau qui fait que la valeur va vers là où il y a le plus de productivité. La productivité, c'est les réseaux. Donc la valeur passe de la société traditionnelle au réseau. Et elle passe ensuite des réseaux à ces réseaux de services.
Autre loi essentielle, c'est la loi de Moore, qu'on a déjà évoquée plusieurs fois dans l'atelier des médias. Donc c'est en gros tous les 18 mois, à taille voilà. Et peut-être valeur constante.
Alors cette loi de Moore, elle a été, je dirais, critiquée parce que ça, on a dit 24 mois, on a dit 36 mois, on a dit 18 mois,
on
etc.
On a dit que ça ralentissait maintenant.
Bon, elle se tient à peu près sur 18 mois, et c'est de dire la puissance de calcul, c'est-à-dire le nombre de transistors qu'on peut mettre sur un processeur, double à peu près tous les 18 mois, c'est-à-dire que pour le même prix, on a le double de puissance de calcul tous les 18 mois.
Et l'application, si on se met dans le même contexte que ce que vous venez de décrire, c'est qu'en gros, les machines vont pouvoir traiter de plus en plus de données, devenir de plus en plus intelligentes.
Voilà, donc ça touche l'unité de calcul, le microprocesseur, mais indirectement, ça va toucher le stockage, ça va toucher la bande passante, c'est-à-dire les flux. Donc c'est toute la mécanique et la puissance de calcul du réseau qui double tous les 18 mois. Et vous rajoutez à ça Metcalfe, et puis après on arrive effectivement au troisième truc, alors qui est le bouquet final.
Qui est le calcul de Grotschel.
Quel calcul de Grotschel. Donc lui c'est le moins connu, mais c'est le plus important. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, sur les 15 dernières années, vous avez eu un progrès d'un million, à peu près deux fois. Quand vous cumulez Metcalfe, c'est une échelle logarithmique, donc ça va très très vite. Sur la loi de Grotschel, c'est 43 fois plus rapide. Donc c'est ça qui fait ce million, le logiciel, les processeurs, le réseau. Vous voyez que vous avez là une dynamique qui est absolument incroyable. C'est ça qui donne ce chiffre de 43 millions en 15 ans de progrès grâce au logiciel. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est magique, c'est merveilleux, c'est positif, c'est en fait absolument extraordinaire. Tant que on a la maîtrise. Donc la question, c'est la question de la maîtrise. C'est pas la question de savoir à quelle vitesse va la voiture, c'est la question qui est au volant.
On marque une courte pause dans l'atelier. Nous nous retrouvons toujours avec Pierre Bélanger, notre invité, de l'autre côté du flash. À tout de suite.